اللهم لك الصمت وعلى رزقك.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
رمضان شهر الرحمة.
إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين.
شهر المغفرة.
ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
شهر العتق من النار.
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار. وأدخل الجنة فقد فاز. وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
كيف نستقبل شهر رمضان؟
بتلاوة القرآن
والقيام
والدعاء
والصدقة
والذكر
والعمرة
والاعتكاف
وجميع الأعمال الصالحة. مختارات رمضانية.
المختارات الرمضانية مجموعة محاضرات ودروس تتعلق بشهر رمضان، اختيرت بعناية لتكون عونا للمسلم فيما يحتاجه من أمور دينه خلال ذلك الشهر.
المختارات الرمضانية. المختارات الرمضانية. المختارات الرمضانية. المختارات.
والآن مع هذه المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Le thème d'aujourd'hui, inshallah subhanahu wa ta'ala, sera autour du jeûne et spécialement autour du jeûne du mois de Ramadan. Les premiers points que je vais traiter, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, concernent la valeur du jeûne en islam, la position du Ramadan en islam, les vertus du jeûne en islam. Je vais parler à partir des versets coraniques et de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En lisant le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle du jeûne comme il parle de la prière, de la zakat et d'autres actes d'adoration. Ce sont en quelque sorte des stations pour le musulman. Des stations auquel le musulman doit s'arrêter pour se purifier de ses péchés, pour se nettoyer de ses péchés, pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala comme sa mère l'a mis au monde la première fois avec aucun péché. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du jeûne en général, avant de parler du ramadan, a cité des caractéristiques très très importantes pour le musulman. Et on va voir, inshallah, parmi les 10 caractéristiques citées dans un verset de sourate Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala a mis au milieu de ces caractéristiques une place pour le jeûne, pour ceux qui font le jeûne en général. Allah Azza wa Jal cite en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim, innal muslimina les soumis wal muslimat les soumises, les femmes wal mu'minin les croyants wal mu'minat les croyantes. Et je vais continuer par après le verset. La cause de la révélation de ce verset, comme il est rapporté dans Musnad l'imam Ahmed, dans Sunan Abi Daoud, c'est que des femmes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se sont posées la question en disant pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il ne cite que les hommes dans le Coran, les croyants, les musulmans, et ne cite pas les femmes. On voudrait bien, on souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala cite et parle aussi des femmes au féminin, en disant les musulmanes, les croyantes, les dévouées de eux, etc. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset dans le Coran que je vais lire d'abord en arabe, inshallah, et puis je vais le traduire en français. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى parle des soumis, des croyants et croyantes, dévoués et dévouées, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, bienfaisants et bienfaisantes, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leurs parties intimes et gardiennes, invocateurs de Dieu beaucoup et invocatrices, Dieu a préparé pour eux pardon et énorme récompense. Dans sourate Al-Ahzab. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis une grande place, une grande valeur pour ceux qui font le jeûne. Dans ce verset de sourate Al-Ahzab. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sourate Al-Baqarah, il nous ordonne une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire le jeûne. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. C'est mieux pour vous de faire le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de plusieurs textes prophétiques, il précise la valeur du jeûne. Et je vais aller un peu vite vu le temps. Le premier point, c'est que le jeûne est pour le musulman une protection contre les shahawat, contre les passions, les désirs de ce bas monde. Chacun a des fois des tentations. Il est tenté par shaitan, par les passions de shaitan, par ces plaisirs que peut apporter shaitan. Et des fois aimé même par neuf de l'être. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que la valeur du jeûne, c'est de protéger le musulman de ses shahawat. Et là, on se rappelle du texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit que le paradis est entouré de choses détestables par l'homme, et l'enfer est entouré de shahawat, de choses aimées par l'homme, des plaisirs, shahawat. Alors, si le paradis est entouré de choses qui sont difficiles à accomplir, telles que la prière 5 fois par jour à l'heure, tant en hiver qu'en été, et faire le ramadan 30 jours ou 29 jours par an, supporter ce jeûne, notamment quand il fait très chaud en été, et les autres adorations, donner la zakat, sortir une somme d'argent, fi sabilillah. Il y a des choses que certains trouvent difficiles à accomplir.
bien sûr, sauf les croyants. Sauf les croyants qui trouvent ça facile et qui aiment faire ça pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en général, il y a des gens qui trouvent ça difficile. Le chemin du paradis est fait d'épreuves et fait de certaines choses difficiles. Mais qui sont rendues faciles par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, par cet amour d'aller au paradis, de voir Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection au paradis, d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, le jeûne est un bouclier, est une protection contre ces shahawat qui veulent le mener vers l'enfer, vers Jahannam. Shaitan essaye par tous les moyens de nous égarer. Et surtout, à notre époque où il y a toutes sortes de moyens de faire égarer les gens, de les écarter de la voie de l'islam, par tous les moyens qui sont préparés de la meilleure façon pour égarer le musulman. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle en disant, en s'adressant surtout aux jeunes, الشباب أو فول جون يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع أو فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Le prophète صلى الله عليه وسلم s'adresse aux jeunes en leur disant أو فول جون يا معشر الشباب. Celui qui est capable de se marier, il a les moyens matériel et physique. Il a les moyens de se marier, qu'il se marie. Et maintenant, on entend de plus en plus l'âge des nouveaux mariés, de ceux qui veulent se marier, qui devient de plus en plus grand. On se marie à 35, à 40 et même plus. Et ça, c'est contre les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a les moyens de se marier, qu'il se marie. Parce que ça l'aide à baisser son regard, ça l'écarte de l'haram, de faire l'haram, de commettre l'adultère. Mais s'il n'a pas les moyens, eh bien le conseil qu'a donné le prophète en fait, c'est saum, le jeûne. Et certains jeunes essayent de chercher d'autres moyens pour répondre à leur plaisir, à leur désir. Alors ils disent, moi je ne peux pas me marier, est-ce que je vais toujours faire le jeûne? Si je ne peux pas faire le jeûne, alors je peux chercher un autre moyen de l'haram pour répondre à ses désirs. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le conseil du jeûne, de siyam. Il ne nous a pas donné le moyen ou la solution dans un acte qui est illicite, qui est haram. Mais c'est dans le jeûne, dans la piété, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut trouver refuge contre al-shahawat. Le prophète alayhi salatu wa sallam, dans le hadith rapporté par al-Bukhari, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: الصيام جنة يستجن العبد بها من النار. الصيام, le jeûne, est une protection, est un bouclier par laquelle, grâce à laquelle, le jeûnant se met à l'abri de l'enfer, du Jahannam. C'est comme quelqu'un qui est dans une guerre, dans une bataille, il a un bouclier pour se protéger. Eh bien, le jeûne, il te protège de tomber en enfer, dans Jahannam, wal'iyadu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith de Tirmidhi, il dit: Man sama yawman fi sabilillah, ja'ala Allahu baynahu wa bayna an-nari khandaqan kama bayna as-sama'i wal ard. Celui qui fait un jour de siyam dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah, le jour de la résurrection, il va mettre entre lui et l'enfer un fossé de la distance des cieux entre les cieux et la terre, pour l'écarter de l'enfer. Dans un autre hadith, dans le même sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui fait un jour de siyam dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'écarte de l'enfer de la distance de 70 années. Celui qui fait le jeûne dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, le prophète alayhi salatu wa sallam, en parlant du jeûne, et il le montre que le jeûne, c'est un moyen pour gagner al-jannah, le paradis. Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Umama radiyallahu anhu, dans Sunan al-Nasa'i et Sahih ibn Hibban, Mustadrak al-Hakim, il dit: un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Umama radiyallahu anhu, il dit: Ya Rasulallah, indique-moi une œuvre, dullani ala amalin adkhulu bihi al-jannah. Indique-moi une œuvre qui me permet de gagner le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, fais le jeûne, accomplis le jeûne, car il n'a pas d'équivalent. Alayka bis-sawm fa innahu la mithla lahu. Alayka bis-sawm fa innahu la mithla lahu. Accomplis le jeûne car il n'a pas d'équivalent. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il regroupe certaines vertus et certains mérites du siyam en disant en premier lieu que as-sa'imu, ceux qui font le jeûne, seront récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala par une récompense dont Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à connaître le nombre de le degré de la récompense. Alors il dit sallallahu alayhi wa sallam, قال الله عز وجل قال الله تعالى في حديث قدسي الله سبحانه وتعالى دي كل عمل ابن آدم له tout ce que tu fais comme action, comme acte d'adoration, eh bien le prophète صلى الله عليه وسلم nous a montré que Allah سبحانه وتعالى donne pour chaque bonne action, il te donne 10 حسنات multiplié des fois jusqu'à 700 حسنات pour une seule action qui est acceptée par Allah سبحانه وتعالى. Elle est récompensée 10 fois, jusqu'à 700 fois. Mais le jeûne, al-siyam, seul Allah subhanahu wa ta'ala, illa al-siyam, fa'innahu li, dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana ajzi bih. Le seul qui connaît la valeur de la récompense du siyam, du jeûne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui fait le jeûne, al-siyam, a deux moments de joie. Deux moments de joie. Le premier moment de joie, c'est à la rupture du jeûne, à la fin du Ramadan, ou bien à la fin de la journée. Quand il va rompre son jeûne, eh bien il est content d'avoir accompli un jeûne et accompli ce jeûne comme le veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les règles de l'islam. Alors il est content qu'il a su et qu'il a pu faire ce jeûne. C'est une joie, c'est un moment de joie pour le croyant, pour le mu'min. Le deuxième moment de joie, c'est à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection, il sera content quand il va rencontrer Allah azza wa jal d'avoir accompli et que Allah lui a donné la santé et la capacité d'accomplir as-siyam, le jeûne. Alors il sera content de ça parce qu'il va trouver ça dans son livre des bonnes actions. On va voir une des autres récompenses concernant celui qui fait le jeûne. Le troisième point cité dans le même hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique, le rasoul alayhi sallatu wa sallam, il dit وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ. La laine qu'on sent chez le jeûnant, celui qui fait le jeûne, en général on la sent comme étant une mauvaise haleine. Alors que cette mauvaise haleine, entre parenthèses, chez Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit Rasulullah alayhi sallatu wa sallam, وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Elle est meilleure chez Allah subhanahu wa ta'ala que l'odeur du musc. Elle est considérée comme meilleure que l'odeur du musc. Le prophète alayhi salatu wa salam, dans ce hadith rapporté par Bukhari Muslim, il dit dans la version de Muslim que As-Siyam va, le jour de la résurrection, être une récompense pour toi parce qu'il t'a empêché de manger pendant la journée et d'avoir des rapports avec ton épouse pendant la journée de Ramadan, pendant la journée de Siyam, même en dehors de Ramadan, parce qu'il t'a empêché d'avoir des choses qui sont normalement licites, halal, à faire en dehors du jeûne, mais tu t'abstiens de les faire parce que Allah subhanahu wa ta'ala te l'a interdit. Et bien par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'abstiens de manger, de boire, d'avoir des rapports. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala te donne toute cette récompense le jour de la résurrection. يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'abstient de manger, de boire et d'avoir des rapports pour moi, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour de la résurrection, regardez mes frères et sœurs, la valeur du jeûne. Le jour de la résurrection, le jeûne viendra pour intercéder chez Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah azza wa jal, pour toi. Il va dire, Ya Rabbi, oh mon Dieu, oh mon Seigneur, j'ai empêché ton serviteur de manger et d'avoir des rapports. Ya Rabbi, mana'tuhu ta'amahu wa shahwatahu. Ya Rabbi, Fashafi'ni fihi. Ô mon Seigneur, accepte mon intercession auprès de toi pour pardonner, pour le faire rentrer au paradis, pour faire rentrer ce musulman au paradis. Le Coran viendra, la même chose, dire Ya Rabbi, j'ai empêché ce musulman qui lisait le Coran le soir, la nuit, je l'ai empêché de dormir. Alors Ya Rabbi, j'intercède auprès de toi pour lui pardonner, le faire entrer au paradis. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va donner cette intercession, va accepter l'intercession du jeûne et du Coran pour faire rentrer au paradis ce musulman qui faisait le jeûne, il lisait le Coran. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Imam Ahmed et dans d'autres livres. Le prophète alayhi salatu wa salam dit dans le hadith de Hudayfa radiyallahu anhu, quand Omar ibn Khattab a posé la question à Hudayfa en lui disant Ya Hudayfa, connais-tu le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la fitna, l'épreuve de la fitna, le désordre qui va toucher la nation musulmane? Hudayfa il dit Ya amir al-mu'minin, fitnatu al-rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi, les épreuves et les problèmes que rencontrent les musulmans qui peuvent provoquer pour les musulmans des péchés, il peut tomber dans le péché avec les épreuves, avec sa famille, ses enfants, ses biens, ses voisins. Il lui a dit, toutes ces épreuves, ce genre de péché qu'il peut faire le musulman, ils sont pardonnés, effacés par le jeûne, la sadaqa, tukaffiruhu salatu, wa sadaqa, wa siyam, wa sadaqa. Ils sont effacés par la prière, par le jeûne et par la sadaqa, le monde. Donc le jeûne efface les péchés du musulman. Mais après, Omar ibn Khattab, il va lui dire, non, Ya Hudayfa, c'est pas le hadith que je veux. Je parle du hadith concernant la porte. Il lui a dit, la porte, il lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, cette porte, qui se trouve entre nous, les musulmans, et entre la fitna, le désordre, elle va être cassée. Et Omar ibn Khattab lui a dit, si cette porte sera cassée, ça veut dire qu'elle ne se refermera jamais. Alors, Hudayfa, quand Omar ibn Khattab est parti, il a dit aux musulmans qui étaient avec lui, cette porte, c'est Omar ibn Khattab. Et le fait de casser la porte, son interprétation, c'est l'assassinat de Omar ibn Khattab. Omar était comme une porte contre le fitna, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par le Bukhari, il dit, dans le paradis, il y a 8 portes. Comme l'enfer, on a 7. Chaque porte est réservée à une certaine catégorie de musulmans. Ceux qui faisaient la prière comme il se doit, comme il faut, comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala, ils faisaient beaucoup de prières, ces gens-là, ils vont rentrer par la porte des prières. Ceux qui faisaient as-siyam, beaucoup de jeûnes de siyam, ils vont rentrer par la porte de siyam qui s'appelle la porte de Rayyan, comme l'a rapporté Hadith Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit que le jour de la résurrection, les gens qui faisaient la prière, des prières autres que les prières obligatoires, ils vont rentrer au paradis par la porte des prières. Ceux qui faisaient le djihad iront au paradis par la porte du djihad. Ceux qui faisaient le jeûne iront au paradis par la porte du jeûne, etc. Et Abu Bakr radiallahu anhu pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, Ya Rasulallah, y aura-t-il quelqu'un qui rentrera au paradis par les 8 portes du paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit en disant, Na'am, oui, Ya Abu Bakr, et je demande, je prie Allah subhanahu wa ta'ala que tu sois parmi ceux-là qui rentreront au paradis par les 8 portes du paradis. Radiallahu anhu, Abu Bakr, radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre que cette porte qui est réservée aux jeûneurs, à ceux qui font le jeûne de Ramadan et à ceux qui font le jeûne en général, la porte qui s'appelle Al-Rayyan, elle est réservée à ceux qui font le jeûne. Et une fois ces personnes rentreront au paradis, eh bien cette porte sera fermée et personne n'aura le droit de rentrer par cette porte. On arrive au mois de Ramadan, les mérites du mois du Ramadan. Al-Siyam, Shahr Ramadan, Shahr Siyam, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans Surah Al-Baqarah, il dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. C'est dans le mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre Al-Quran. Donc le Coran, le meilleur livre révélé au prophète sallam dans le meilleur mois et au meilleur prophète dans la meilleure nuit, Laylat al-Qadr. Allah Ta'ala dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan, une guidée pour les gens, hudan linnas, وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que pendant le ramadan, à partir du premier jour et de la première nuit du ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala enchaîne les grands satans, les grands shayatins. Ils sont enchaînés, comme l'explique la version de Sunan al-Nasa'i. Les grands satans sont enchaînés, les portes du paradis sont ouvertes, et aucune de ces portes du paradis n'est fermée. Les portes de l'enfer sont fermées, et aucune de ces portes n'est ouverte jusqu'à la fin du ramadan, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari. Dans le mois de ramadan, il y a une nuit meilleure que 1000 mois d'adoration. Laylatun khayru min alf shahr. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Cette nuit, ليلة القدر, c'est la meilleure nuit de toute l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la valeur du Ramadan spécialement après avoir parlé du jeûne en général. Ramadan, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un moyen d'effacer les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les 5 prières obligatoires effacent les petits péchés. Le vendredi, du vendredi au vendredi, efface les péchés, les petits. Du ramadan jusqu'au ramadan, celui qui accomplit le ramadan comme il faut, comme le veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah lui pardonne tout ce qu'il a fait comme petit péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit As-salawatul khams, wal-jumu'atu ila al-jumu'a, wa ramadanu ila ramadan, kaffaratun lima baynahunna, majtunibat al-kaba'ir. Pas les grands péchés, les petits. Et pendant le mois de Ramadan, celui qui demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, au moment de la rupture du jeûne, eh bien, ce qu'il demande est exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme le précise le hadith de Ibn Majah et de Al-Bazzar, rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait le jeûne du mois de Ramadan a une demande exaucée chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est au moment de la rupture du jeûne. Dans un hadith de Amra ibn Murra al-Juhari, il dit, un homme vint chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ya Rasulallah, si j'atteste qu'il n'y a point de divinité autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ashhadu an la ilaha illallah, et que tu es le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa annaka Rasulullah, et je prie mes 5 prières obligatoires, je donne le monde obligatoire à Zaka, et je fais le jeûne du mois de Ramadan. Wa sumtu Ramadan wa qumtuhu, et je fais qiyam al-layl, la prière de la nuit, tarawih, pendant le mois de Ramadan. Fa mimman ana, je suis considéré parmi qui? Parmi les musulmans. Parmi quel groupe de musulmans? Alors le prophète sallallahu alayhi lui dit, tu es parmi as-siddiqina wa shuhada, les véridiques et les martyrs. Il y a la valeur des véridiques et des martyrs, as-siddiqina wa shuhada. Et le hadith, il est rapporté par Ibn Hibban, dans Sahih Ibn Hibban. Dans le mois de Ramadan, on a aussi la chance de faire la prière de Tarawih, qu'a rappelé Umar ibn Khattab. C'est une tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a prié pendant 3 journées, 3 nuits, la prière de Tarawih, et qu'il a arrêté de prier pour qu'elle ne soit pas obligatoire pour les musulmans, de crainte qu'elle soit obligatoire. Alors il a arrêté de faire Tarawih. Donc c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Omar qui a de nouveau ordonné à ses compagnons et aux musulmans de prier derrière Ubay, radiyallahu anhu, de reprier Tarawih que priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ceux qui négligent As-Siyam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, en montant sur la chair, sur le mimbar, il dit 3 fois Amin, Amin, Amin. On dit à Rasulallah, tu viens de dire une chose que tu ne disais pas auparavant. 3 fois Amin. On lui pose la question, pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Jibril vient, alayhi salam, vient de me dire, Ya Muhammad, celui qui a la chance d'être encore en vie, et il fait Ramadan, mais cette personne, Allah ne lui a pas pardonné. Parce qu'il a négligé Ramadan, ou bien il n'a pas fait Ramadan du tout. Eh bien, Jibril dit, Ab'adahu Allah, qu'il soit écarté de la clémence et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam dit, Amin. Jibril dit qu'il soit, il fait une invocation contre lui, celui qui néglige Ramadan, et le prophète sallam dit, Amin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, une nuit, il a vu dans un songe, dans un rêve, que deux anges sont venus chez lui. Deux hommes sont venus sous forme de deux hommes, deux anges. Ils l'ont pris de ses deux mains, ses deux bras, ils l'ont fait monter sur une montagne. Alors le prophète s'est mis, dit, je ne peux pas monter sur cette montagne, elle est très très haute. Ces deux anges ont dit, on va t'aider, ne crains rien, on va t'aider à la monter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a monté sur cette montagne et il a entendu des voix. Il a posé la question à ces deux hommes qui sont des anges en disant, c'est quoi ces voix? Les deux hommes répondent au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'agit des voix des gens de l'enfer qui viennent du Jahannam. Alors le prophète il dit, pourquoi? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a vus accrochés. Ce sont des gens, des musulmans, accrochés en enfer. C'est Adab al-Qabr, Adab al-Barzakh, le châtiment des tombes. C'est avant Yom Qiyama. Ils sont accrochés en enfer en train de se faire châtier et du sang qui sort de leurs lèvres déchirées. Ils resteront dans ce châtiment parce qu'ils ont négligé Siyam Ramadan, parce qu'ils mangeaient. Ils rompaient le jeûne avant l'heure, avant le jour de la rupture, avant l'Eid et avant l'heure de Maghrib. C'est des gens qui rompaient le jeûne avant l'heure et avant le temps de la rupture. Eh bien, ils seront châtiés dans leur tombe, comme le précise le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sunan al-Nasa'i. Et j'arrive maintenant à quelques règles. Si j'ai encore le temps, sinon je le laisserai au moment des questions. Quelques règles, je rappelle aux frères et sœurs, quelques règles concernant le mois de Ramadan. Tout d'abord, à ne pas, le premier point, ne pas faire le jeûne du jour du doute. Le 30e jour du Sha'ban, c'est ce qu'on appelle Yom Shek. Eh bien, le jour du doute, il n'est pas permis aux musulmans de faire ce jeûne du doute, du Shek. Il va dire, moi je vais le faire, parce que peut-être ça sera un jour de Ramadan. Il y a encore du doute. On ne sait pas est-ce que c'est le 30e jour du Sha'ban ou bien c'est le premier jour de Ramadan. Alors qu'est-ce qu'il fait? La veille, il dit, moi je vais le faire. Dans tous les cas, je vais faire le jeûne de ce jour. Comme ça, je ne tombe pas dans le péché si c'est un jour de Ramadan. Ça, c'est une erreur, il ne doit pas le faire. Parce que c'est une désobéissance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme a précisé Ammar, radiyallahu anhu. Il dit, « Man sama al-yawm al-ladhi yushakku fihi, faqad asa Aba al-Qasim, sallallahu alayhi wa sallam. » Celui qui fait le jeûne du jour du doute, il a désobéi à Abu al-Qasim, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelqu'un qui a l'habitude de faire lundi, jeudi, ça tombe un lundi ou un jeudi, c'est pas grave. Il a l'habitude, il le fait comme étant un jeûne, un lundi ou un jeudi. La même chose, la deuxième moitié du Sha'ban, celui qui a l'habitude de faire siyam, il le fait. Aussi parmi les règles de siyam, c'est de faire l'intention niya. La veille, avant le fajr, de faire niya de siyam, comme le précise le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut faire siyam, la veille, avant le fajr, il doit faire un niya. Parce que le prophète nous dit, « Man lam yubayyit siyam min al-layl, fala siyam alayh. » Celui qui ne manifeste pas l'intention de faire le jeûne avant le fajr, la nuit, la veille, donc avant le fajr, il n'a pas de jeûne, il n'a pas de siyam. Il doit avoir niya de siyam pour Allah subhanahu wa ta'ala. Avant le fajr, ceci est dans le jeûne obligatoire, pas dans le jeûne surrogatoire. Nafila, il peut faire niya même le matin, même à 11h du matin, il peut le faire. S'il n'a rien mangé, il se réveille le matin, il n'a rien mangé, après il se dit dans sa tête, eh bien comme j'ai rien mangé, je peux faire siyam. Il a le droit comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Aïcha radiyallahu anha. Mais dans le jeûne obligatoire, il doit avoir niya avant al-fajr, avant al-fajr. Parmi certaines règles de siyam, le premier point, je vais citer quelque chose qui sont autorisées par la loi islamique dans le jeûne du mois de Ramadan. Le premier point, c'est de se trouver, après l'heure de al-fajr, de se trouver en état de janaba. Ça peut arriver à un frère ou à une sœur de se trouver en état de janaba alors que le fajr est déjà passé. C'est-à-dire l'heure du début de l'fajr, comme vous le savez, al-siyam, il commence à partir de l'fajr, l'aube, le vrai, jusqu'à le maghrib, jusqu'au coucher du soleil. Une fois le soleil est couché, il faut faire vite, se hâter à rompre le jeûne. et ne pas ressembler aux égarés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que, comme il l'a fait dans Sahih al-Bukhari, Aïcha lui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, le matin, après le fajr, il se trouvait en état de janaba, après le fajr. Donc ça n'annule pas le jeûne, le fait de se réveiller. Par exemple, quelqu'un qui se réveille un quart d'heure, une demi-heure, plus ou moins, après le fajr, il se réveille en état de janaba. Ou bien quelqu'un qui a eu des rapports, et il n'a pas eu le temps de se laver avant le fajr, il est resté en état de janaba jusqu'après le fajr. Eh bien, il a le droit, c'est autorisé. Le prophète le faisait comme il est rapporté dans le livre du jeûne, dans Sahih al-Bukhari. Aïcha dit que le prophète, des fois, se trouvait après le fajr en état de janaba. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il se lavait, après le fajr, il se lavait et il reprenait son jeûne. Le deuxième point, de se frotter les dents, faire siwak. C'est autorisé aux musulmans d'utiliser siwak pendant toute la journée de Ramadan. Il n'y a aucun texte qui interdit ou qui déconseille aux musulmans d'utiliser siwak pendant la journée de Ramadan. Car le prophète sallam dans les hadiths, qu'il a recommandé et très recommandé aux musulmans d'utiliser siwak avant chaque ablution, avant chaque prière, comme dans Sahih al-Bukhari et dans d'autres livres de la tradition du prophète sallam, il n'a pas exclu une partie de la journée de Ramadan, comme dans certaines écoles juridiques. Il n'a pas non plus exclu le mois de Ramadan, la journée de Ramadan entière. Mais il a conseillé aux musulmans d'utiliser siwak à plusieurs occasions. Alors, et Ramadan, c'est une des occasions, on peut utiliser, il est autorisé d'utiliser siwak même pendant la journée de Ramadan. Le troisième point, c'est de faire al-madmada, le rinçage de la bouche et l'aspiration de l'eau par le nez, le stinchar. Il est permis, autorisé de le faire à condition. Donc on peut le faire pendant le wudu, c'est une obligation de le faire dans le wudu, mais en dehors du wudu, on peut le faire aussi. C'est permis, à condition de ne pas exagérer, pour ne pas avaler de l'eau. Il ne faut pas exagérer dans l'aspiration de l'eau par le nez, ni dans le rinçage de la bouche, al-madmada. Donc on peut le faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Abu Dawud, Tirmidhi et Ibn Majah, il dit à un compagnon qui est Laqit ibn Sabira, radiyallahu anhu, Laqit ibn Sabira, radiyallahu anhu, le prophète lui dit, Baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Il lui dit, aspire profondément, profondément de l'eau, donc dans l'istinchar, à moins que celui soit en état de jeûne. Donc il est permis de faire l'istinchar et le rinçage de la bouche, le madmada. Le quatrième point qui est autorisé, c'est le fait d'embrasser sa femme ou la femme qui embrasse son mari. Donc ça n'annule pas le jeûne. Il peut le faire. C'est permis. Mais là, faire une petite différence. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, un jeune est venu chez lui en lui disant, Ya Rasulallah, un jeune, il lui dit, est-ce que je peux embrasser ma femme quand je suis en état de jeûne? Le prophète lui dit non. Et une autre fois, un vieux est venu voir le prophète, il lui dit, Ya Rasulallah, est-ce que je peux... Donc un vieux, c'est, en général, c'est des pièces détachées, etc. Hein, il est fini. Il dit, Ya Rasulallah, est-ce que je peux embrasser, entre parenthèses, ma femme? Rasulallah lui dit, Naam, tu peux. Le rapporteur du hadith, c'est un compagnon, il dit, on s'est regardé. Il a trouvé ça un peu étrange. Comment? Le premier, non, Rasulallah m'a dit, non, tu peux pas, et le deuxième, oui. Alors le prophète, il s'est retourné vers Sahaba en leur disant, Al-Shaykh, inna Shaykha yamliku nafsah. Le vieux, la vieille personne, sait se maîtriser ses désirs. Alors, il est déconseillé aux jeunes de le faire. C'est pas interdit. Mais il est déconseillé de le faire. Sinon, il va peut-être aller plus loin. C'est pour cela, c'est permis. Naam, c'est permis. D'embrasser sa femme. Naam, c'est permis.
Comme a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha rapporte dans Sahih al-Bukhari en disant qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses femmes. Et Aïcha, elle dit qu'elle m'embrassait moi. Elle dit que le prophète m'embrassait et me faisait des attouchements. Wa huwa sa'im. Tout en étant en état de jeûne. Wa kana amlakakum li'irbi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur parmi les sahaba, parmi les musulmans, à se maîtriser le désir. Alors, elle nous montre que le prophète sallallahu
il embrasse ses épouses et il les touchait. Mais lui, il savait se maîtriser. Donc, il est permis, mais
déconseillé de le faire pour le jeûne. Surtout si par s'il est accompagné avec jouissance. Le cinquième point,
c'est de se faire des analyses de sang. Parce qu'on entend souvent que c'est pas permis de faire des analyses de sang, que c'est pas permis de faire des injections. Eh bien, il n'y a rien qui interdit aux musulmans d'aller pendant le ramadan de faire des analyses de sang, ni de faire des injections, du moment qu'il ne s'agit pas d'injections de nourriture. Si c'est des injections des vaccins contre des maladies, etc., eh bien, il est permis aux musulmans de les faire. Comme il est permis de faire des analyses. Al-Hijama, le fait de saigner, de se saigner du sang, Al-Hijama, comme une sorte de prise de sang, eh bien, le prophète sallam l'a pratiqué. Au début, il avait dit que celui qui fait Al-Hijama, cette prise de sang, pendant Al-Siyam, son Siyam n'est pas valable, il est annulé, mais ce caractère est abrogé, comme disent les savants. Par un autre hadith d'Ibn Abbas, il dit que le prophète sallam a pratiqué Al-Hijama, cette prise de sang, tout en étant en état de jeûne.
Le sixième point,
le fait de goûter, surtout pour ceux qui préparent la nourriture pendant le mois de Ramadan, donc il est permis de goûter la nourriture du moment qu'on n'avale pas, on n'en avale pas. Il est permis de goûter
la nourriture sans l'avaler. Comme dit Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit, ce n'est pas grave de goûter, il a donné donc des exemples, le vinaigre, etc., tant qu'il ne l'avale pas
quand il est en état de jeûne. Et il est rapporté par
Al-Bukhari, c'est un hadith mu'allaq. Le septième point,
de mettre Al-Kuhl qu'on met sur les yeux. C'est pas spécifique aux femmes. Même les hommes, ils peuvent le faire comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Al-Kuhl. Parce que certains, dans certaines écoles juridiques, il est interdit de mettre du Kuhl alors qu'il n'y a aucune preuve qu'il est interdit. Il n'y a aucune preuve authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est interdit de mettre du Kuhl, mais pendant la journée du Ramadan.
Aussi, de mettre
des gouttes dans les yeux.
Et
Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
rahimahullah, il a choisi
l'avis qui dit que c'est permis de mettre le kuhl ou bien des gouttes, même si ça arrive ici, donc à côté de la gorge.
Et l'imam al-Bukhari a dit que Al-Hassan al-Basri et Ibrahim ne voyaient aucun mal dans l'utilisation du kuhl
par
le jeûne, dans Sahih al-Bukhari. Le huitième point,
le fait de se baigner dans l'eau, de se laver avec de l'eau, de plonger dans de l'eau, c'est pas interdit. C'est pas interdit, mais il faut faire attention de ne pas avaler l'eau. Mais c'est pas interdit. Le prophète, quand il faisait très très chaud dans Sahih al-Bukhari, dans le livre du jeûne, le prophète, quand il faisait très chaud, eh bien, il versait de l'eau sur sa tête.
Le neuvième point, le dernier point,
c'est de mettre du parfum. Aussi, il n'y a rien qui interdit aux musulmans et à la musulmane, du moment qu'elle ne sort pas de chez elle, quand elle met du parfum, il est permis pendant la journée du Ramadan de mettre du parfum.
Il y a quelques règles, inshallah, je vais les traiter dans les questions, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullahu khayran. Wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli allahumma wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu fiik.
Bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة هذه حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات ربي وسلامه عليه أفضل من صلى وصام وتلى القرآن وبه قام، وعلى آله وأصحابه السادة الكرام وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ف le sujet ou le titre, comment réussir ou la réussite du jeûne. À la colline, je ne vous cache pas que l'Akh Adil a franchement parlé un peu trop. Il a presque tout dit et je dis la même chose que lui. Mais à la colline, j'ai discuté avec le frère à l'instant, le sujet est très vaste. C'est pas en une conférence qu'on peut parler de tous les points concernant Inama, je voudrais juste mettre le doigt sur trois points essentiels. Alors, le premier point concernant l'importance de la parole d'Allah Azza wa Jal dans ce mois. Le deuxième point concernera, bi'iznillah, le sahur, donc le repas qu'on prend le matin avant l'aube, avant le fajr. Et le troisième point concernant la rupture du jeûne, à l'iftar. Et éventuellement, si le temps nous le permet, concernant certains péchés qu'il faut éviter, surtout les péchés de la langue, al-ghayba wa al-namima, etc. Alors, bismillah, le premier point, c'est le point concernant l'importance de la parole d'Allah Azza wa Jal dans ce mois-ci. Comme le frère Adil l'a très bien souligné, et comme tout le monde le sait, ce mois est le mois du Qur'an, et le mois de la parole d'Allah Azza wa Jal, comme il était indiqué dans le verset de Sourate al-Baqarah, « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an », le mois du jeûne dans lequel Allah Azza wa Jal a révélé le Qur'an. Et comme Allah Azza wa Jal le mentionne dans d'autres versets, comme « Inna anzallahu fi laylatin mubaraka », nous l'avons révélé en une nuit bénie. Cette nuit bénie, on retourne au tafsir du Coran lui-même pour savoir quelle est cette nuit bénie. C'est tout simplement Laylatul Qadr, puisqu'il dit dans un autre verset, Inna anzalnahu fi laylati al-Qadr. Donc on sait par là que la nuit bénie, c'est le mois du Ramadan. Et comme Ar-Rasul alayhi salatu wa salam, chaque année, Jibril alayhi salam revoyait avec lui al-Qur'an, et que la dernière année de sa vie sur cette terre, Jibril a revu avec lui le Coran à deux reprises, par deux fois. Il est aussi rapporté, il y a beaucoup de athar, beaucoup de traces concernant la lecture du Coran chez As-Salaf Salih. C'est connu, Malik alayhi, alayhi rahmatullah wa radiallahu anhu, l'Imam Malik, le grand savant de Médine, Imam Darul Hijra. Qu'est-ce qu'il faisait une fois le Ramadan arrivé? Il abandonnait Majalis al-Ilm ou al-Ista et il s'adonnait à la lecture du Coran. Kana yatruku Majalis al-Ilm wa yankabu ala qira'at al-Qur'an sur le Mus'haf. Et l'imam Bukhari fait des demandes, l'imam Shafi'i, l'imam Zuhri, etc. Donc ces gens-là connaissaient l'importance de ce mois-là et aussi l'importance de la lecture du Coran pendant ce mois-là. Et nous allons voir à l'instant quelques textes, quelques hadiths concernant l'importance du Coran. Alors, premièrement, le prophète alayhi salatu wassalam dit, d'après ce que Othman rapporte, « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. » Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, et l'enseigne. Et en rapportant ce hadith, en lisant ce hadith, je pense à une parenthèse assez importante. Les savants évoquent, concernant la lecture du Coran, deux points. Ils disent que la lecture du Coran, eh bien, elle se divise en deux. La première lecture, c'est une lecture dans la pratique. Le fait que tu pratiques, le fait que tu crois que Allah Azza wa Jal a révélé cette parole, elle est à lui, c'est sa parole, dans son entièreté, le fait que tu te soumets à ses lois, en pratiquant les obligations et en évitant les interdits, eh bien là c'est une lecture pratique. Et la deuxième sorte de lecture, c'est la lecture dont on va parler à l'instant. Alors je redis, « خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما الرسول عليه الصلاة والسلام » l'a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Tayyib, retenez ce hadith. Le deuxième hadith, qui est rapporté par Aïcha, elle dit, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, Al-Mahiru bil-Qur'an ma'a safarati al-karami al-barara, wal-ladhi yaqra'u al-Qur'an, wa yatata'ta'u fihi, wa huwa alayhi shaqqun lahu ajran. Al-Mahiru bil-Qur'an ma'a safarati al-karami al-barara. Celui qui récite le Coran d'une manière aisée, avec les règles qu'il faut, de manière correcte, comme Jibril alayhi salam l'a descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Eh bien, celui-là, il est au rang avec Al-Mala'ikat al-Karam. Ma'at-Safarat al-Karam al-Barra. Il a un degré très haut. والذي يقرأ القرآن quant à celui qui lit le Coran ويتتعتع فيه, il a dur à lire le Coran, il a dur à prononcer correctement, il a dur à faire sortir les lettres comme il faut, وهو عليه شاق, il éprouve une certaine difficulté, له أجران, il est récompensé à deux reprises, par deux fois. La première récompense, évidemment, c'est la récompense de la lecture qu'il fait. Et la deuxième récompense, c'est concernant la difficulté qu'il trouve à lire le Coran. Lakin, il y a des hadiths qui sont encore beaucoup plus encourageants. Comme celui d'Abdullah ibn Mas'ud dans Sunan al-Tirmidhi, si je me rappelle bien. Il dit, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. Celui qui lit une lettre de la parole d'Allah عز وجل, il a une حسنة. والحسنة بعشر أمثالها. Et chaque حسنة est multiplié par 10. Et il continue عليه الصلاة والسلام en soulignant que ولا أقول ألف ألف لام ميم حرف ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم ولام حرف وميم حرف. Je ne dis pas que ألف لام ميم est un حرف. وإنما ألف يتنحر لام يتنحر الميم يتنحر صافي 3 لتر فوالد صافي 30 حسنة يتنوز بخيمان با إن دمي سكوند en disant ألف لام maintenant faites le compte بسم الله الرحمن الرحيم il y a combien de lettres dans بسم الله الرحمن الرحيم combien de lettres dans الفاتحة combien de lettres dans قول الله أحد vous allez arriver à des chiffres considérables incroyables avec beaucoup de zéros derrière là طيب ça c'est la valeur du Coran. C'est pour ça que le mu'min, c'est pour ça que j'invite les frères et les sœurs par la même occasion à profiter de cette occasion pour lire le Coran d'Allah Azza wa Jal, la parole d'Allah Azza wa Jal, mais aussi pour la prendre par cœur. Il ne suffit pas de lire. Certains me diront, l'essentiel, le principal, c'est de mettre en pratique. Ça ne sert à rien d'apprendre par cœur et puis de ne pas mettre en pratique. On est d'accord sur ce point. Lakin écoutez le hadith suivant. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, yuqalu li sahib al-Qur'an, c'est-à-dire yawm al-qiyamah, iqra warqa. On dira à celui qui lisait le Coran, ou à celui qui connaissait le Coran, iqra warqa. Lui, il monte dans les degrés. Yawm al-qiyamah. Le paradis, c'est des degrés. C'est pas une grande place où tout le monde est réuni. C'est des degrés par rapport à la foi, par rapport à la hasanat et au bon zoo. Iqra warqa. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Car ton degré, ton niveau dans le paradis, eh bien, c'est par rapport à la dernière ou par rapport au dernier verset que tu vas réciter. Maintenant, tu connais un verset, tu en connais deux, tu en connais trois, tu en connais quatre ou cinq, et puis tu connais la moitié du Coran et tout le Coran. Évidemment, connaître tout le Coran, on pense bien qu'il faut le connaître, mais aussi il faut le mettre en pratique. Parce que le malheur, ce serait de le connaître et de ne pas le mettre en pratique. À ce moment-là, ça devient « hujjatun alik », une preuve contre toi et on le connaît, puisqu'il est « hujjatun laka aw alik », une preuve pour toi. Comme le frère Adil avait cité un hadith concernant Ramadan qui va intercéder en faveur du jeûneur, le Coran, c'est la même chose pour le Coran. Il va intercéder en la faveur de celui qui le lisait et qui le mettait en pratique. Sinon, il risque de mettre Sahibuhu, de mettre celui qui le lisait en enfer. Car il le lisait, mais il ne le mettait pas en pratique. Ou alors il lisait, il gagnait de l'argent avec, etc. etc. Donc j'invite les frères ici et les sœurs présentes à étudier le Coran et à peut-être s'engager pendant ce mois-ci à étudier une certaine partie du Coran. C'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Comme par la même occasion, j'y pense un instant, par la même occasion, on demande aux frères de ne pas laisser tomber ou de ne pas pouvoir profiter de cette occasion pour laisser tomber la cigarette, qui est une
est une ordure, une erreur. Et donc je dis par là, engagez-vous à étudier une partie du Coran, et juste pendant 2 minutes, parce que je n'ai pas beaucoup de choses à dire, voyez-vous, juste pendant 2 minutes, je vous dis la meilleure, ce qui me semble, la meilleure façon, la meilleure manière d'étudier le Coran. Et c'est un reproche que j'ai fait souvent aux frères, qu'on fait aux frères, de s'adonner à la lecture de certains livres qui ne peuvent être que bénéfiques. Et à écouter des doros qui ne peuvent être que bénéfiques. Mais là où on n'est pas d'accord, lorsqu'on passe des heures et des heures dans le blabla, il a dit, il a répondu, ceci, cela, etc. Après 2-3 heures, on n'est sorti avec aucun fruit, c'était pas de l'ilm, c'était qala maqal. Ça, il n'en est pas question. Je demande aux frères, on demande aux frères de profiter et d'accorder de l'importance à la parole d'Allah Azza wa Jal, car elle est la base de tout. Et ce qu'il faut faire en, de manière très brève, il faut se fixer 2 objectifs, comme je l'avais expliqué à certains frères. Le premier objectif est un objectif à long terme. On va dire cet objectif-là, à long terme, je me dis, tiens, je commence le premier jour du Ramadan, et à la fin du Ramadan, le jour de l'Aïd, par exemple, je devrais étudier, alors je devrais réciter 2 hijs, 1/30 du corps, ce qui est très peu. Mais bon, pour un début, c'est bien. 1/30 du Coran. Alors donc, 1 chapitre. Ça, c'est l'objectif à long terme. L'objectif à court terme, c'est de dire, chaque jour, j'étudie, par exemple, une page. Chaque jour, j'étudie une page. Ou alors une demi-page. Ça, c'est l'objectif à court terme. Ici, je parle à la majorité des frères, je ne parle pas du cas où il faut réciter sur un cheikh, etc. Ça, c'est la meilleure des manières. Lesquels je parle au cas où c'est pas possible, où on travaille, c'est pas, etc. Ça y est, donc, je me suis fixé 2 objectifs, un court terme et un à long terme. À court terme, je dis donc à la fin de la journée, je dois connaître la moitié d'une page. Et maintenant, je commence le travail. Avant de commencer le travail, 2 remarques. L'étude se fait le matin à l'Fajr. Alhamdulillah, pendant le Ramadan, les gens sont en forme. Le matin. Après la prière de Fajr, on revient à la maison. Surtout que maintenant, l'Fajr est avancé, 6h30, 7h, etc. Il n'est pas possible, ou presque pas possible, de dormir. Seuls les gens qui ne connaissent pas la valeur de ce temps-là dorment, surtout pendant le Ramadan. J'espère qu'il n'y a personne parmi vous qui va dormir après ce temps. L'étude se fait tout le matin. Ça, c'est connu. Allah Azza wa Jal, il en parle dans le Coran. Le Coran ne faisait qu'un mashhouda. La révision se fait le soir, avant d'aller dormir. Le soir c'est pour la révision, le matin c'est pour l'étude par cœur. Ne jamais, jamais, alors ne jamais étudier par cœur le soir avant d'aller dormir. C'est une étude qui ne va pas vous servir à grand chose. Oui, vous allez connaître pendant 3-4 jours, mais ce n'est pas une étude qui va rester ancrée dans votre mémoire. Donc, le matin, je prends 5 lignes. Je prends 5 lignes. Avant de prendre ces 5 lignes, essayez d'avoir un Coran unique dans lequel vous allez étudier tout le temps. Un Coran unique, ne pas changer de Coran. Avec lequel vous allez vous habituer, avec lequel vous pouvez lire de manière très aisée. Je prends 5 lignes et je commence par une petite période d'échauffement, d'entraînement si vous voulez, qui peut durer 10 minutes, un quart d'heure, c'est relatif. Qu'est-ce que je fais pendant ces 10 minutes, un quart d'heure? Je lis. Je fais que lire en regardant dans le Coran. Je lis. Ils essayent de prononcer correctement les mots et les versets. Une fois que je crois que ça y est, je prononce correctement, car parfois il y a des mots difficiles avec lesquels on n'est pas habitué. Je mets de préférence une cassette, on va dire à Anna, de quelqu'un qui lit très bien, qu'on nous a conseillé, et j'écoute ces 5 versets dans la cassette. Pourquoi ? Pour voir est-ce que vraiment j'ai bien prononcé, est-ce que vraiment je prononce bien. Lorsque je me suis habitué avec la lecture du cheikh dans la cassette, ça y est, je suis prêt maintenant pour la mémorisation. Maintenant, le moment de la mémorisation va commencer. Je peux y aller. Qu'est-ce que je fais? je lis plusieurs fois les cinq versets. Pas 10 fois, ni 20 fois, ni 30 fois, ce n'est pas assez. Si après 10 fois vous croyez que vous connaissez, dites non, je ne connais pas. Parce que là, c'est une mauvaise relation, une mauvaise connaissance. Il faut répéter 40, 50, 60 fois pour que ça reste dans la tête. Après ça, je ferme le Coran et je regarde. Est-ce que vraiment je connais? Et si je vois que je connais, alhamdulillah, maintenant je passe aux 5 versets suivants. Et je fais la même technique. Je lis plus de chauffement, j'écoute la cassette et puis je commence la mémorisation. Seulement à la fin, ce qui est nouveau maintenant, c'est que je dois relier les 5 premiers aux 5 derniers. Quand je ferme le Coran, je n'ai pas récité dans ma tête les 5 derniers seulement. Seulement, je vais commencer depuis le début. Je vais réciter les 10 versets. J'arrête là. Ça fait une demi-page. J'arrête. Et je vais au travail, je vais à l'école, je vais n'importe où. Taïb. Pendant la journée, les prières de Nawafil sur le rédactoire, je dois lire dans ces prières ces versets que je viens d'étudier. Dans la rue, je lis les versets que je viens d'étudier. Je suis dans un tram en train de rêver, etc. Perdre mon temps, je lis les versets. Et pendant toute la journée, c'est les versets qui sont répétés. Toute la journée. Et à la fin, lorsque on va dormir, une dernière fois, je jette un dernier coup d'œil dans le Coran concernant ces versets-là, et j'écoute de préférence une dernière fois ces 10 versets par rapport à une cassette. Et je dors. Pour que la dernière chose que tu aies entendue dans cette journée, ce soit ces 10 derniers versets. Le lendemain, tu te réveilles, ces versets-là sont « bi'idhnillahi azza wa jal » ancrés à toujours dans ta mémoire, à condition que tu en prends, que tu en prennes soin, car le Coran, il se filtre très vite, on le perd très facilement. Donc ça, c'était un appel à tous les frères d'écraser Shaitan et essayer de prendre des résolutions pour pouvoir apprendre une partie du Coran, et pourquoi pas tout le Coran. Rien de plus facile, ça c'est déjà fait. On connaît des gens qui l'ont fait, qui ont commencé pendant le Ramadan. Et alhamdoulilah, ça a été un bon départ. Et ils ont pu terminer la parole d'Allah Azza wa Jal. Et ceci, pour vous dire qu'Allah Azza wa Jal vous rappelle, il dit l'apprentissage a été facilité, ainsi que la compréhension, à qui le veut. Ça c'était un message général. Deuxième point, très vite aussi, pour laisser la parole à Daoud, je ne vous cache pas que je suis très fatigué, que je n'ai rien préparé, je suis en train de vous parler, et je réfléchis aux phrases qui sont en train de venir tout de suite, là, l'une après l'autre. La deuxième chose, concernant As-Sahur, puisque le frère Adil, il devait en parler, mais bon, le temps, etc. As-Sahur, c'est le repas qu'on prend le matin avant l'aube, ou juste avant le fajr. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui est rapporté par Anas dans le Bukhari Muslim. Il dit Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le repas du matin, le sahur, car dans le sahur il y a une bénédiction, une baraka. Cette bénédiction, premièrement, une bénédiction pourquoi? Premièrement, parce que c'est la sunnah du prophète alayhi salatu wa salam. Deuxièmement, parce que c'est une différence entre nous et les gens du livre. Faslo, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma bayna siyamina wa siyam ahli kitab, as-sahur. Donc, la différence entre notre jeûne et celui des gens du livre, c'est le sahur qu'on prend le matin. Donc, il a une importance ici. Puisqu'on sait que dans plusieurs. Et à maintes reprises, le prophète nous ordonne de différencier les gens du livre et les koufars en général dans toute chose, à la qadri li sata, dans la mesure du possible. Donc, le sahur est une bénédiction et aussi c'est une différence entre le sahur des gens du livre, car eux, ils le faisaient beaucoup plus tôt. Et nous, on doit le retarder. Et aussi, il faut de préférence Tout ça, c'est des choses qui sont préférables, des sunnahs, des recommandations. Le faire le plus tard possible, comme je viens de dire à l'instant. Le plus tard possible. À tel point que le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que si vous entendez la prière, ou le adhan, l'appel à la prière, et que vous avez un ustensile dans lequel il y a de la nourriture, ou dans lequel il y a de l'eau, ou une boisson, ou quoi que ce soit, eh bien, ne le laissez pas tomber, ou n'arrêtez pas de boire ou de manger, mais continuez. Ne lâchez pas ou ne laissez pas, mais continuez. Si j'entends l'adhan du fajr et que je bois, eh bien, je continue à boire. Je suis en train de marcher, en train de manger, que je termine. Ne pas exagérer, ne pas terminer après une demi-heure. Une main, l'idée, c'est de terminer. Faqat. C'est une permission du prophète, alayhi wasallam. D'où cette fameuse innovation avec laquelle on est venu, qui s'appelle l'imsak. L'imsak, c'est une innovation de la première catégorie. Ça, c'est vraiment ce fichier des musulmans et de la sunna. Les hadiths sont là, ils sont clairs. Il faut retarder le plus possible à sahur. Il faut différencier, se différencier les gens du livre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'une demi-heure, parfois un quart d'heure, parfois 20 minutes, il faut arrêter de boire et de manger. Pourquoi? Par précaution. Subhanallah. Le bien, il est où, le bien? Le bien et tout le bien est dans le fait de suivre le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ses enseignements et dans ce qu'il nous a appris. Là est le bien. Lakin de là a inventé des lois, soi-disant parce qu'on a peur pour les gens qu'ils mangent le mois du Ramadan, eh bien, là ce n'est pas possible. Là on va à l'encontre du prophète, alayhi salatu wassalam, et de ses enseignements. Tayyib. Deuxième, ou alors troisième chose, concernant l'iftar, concernant le moment de la rupture. Le moment de la rupture, eh bien, c'est le contraire. C'est le contraire. Là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Ma zal al-natu bi khayrin, ou la yazal al-natu bi khayrin, ma ajjal al-fitr. » Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils se hâtent à rompre le jeûne, tant qu'ils se précipitent à rompre le jeûne. Deuxième bid'a, il faut attendre qu'on voit les étoiles qui fassent noir chez certaines tendances égarées pour pouvoir manger. Pourquoi? Attention, peut-être pas le temps, etc. Il faut encore un peu clair, etc. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « La yazalu natu bi khayr ma ajjalu al-fitr ». Et dans un autre hadith d'Ibn Hibban, il dit « La yazalu dinu zahiran ». La religion, elle sera donc apparente tant que les gens « ma ajjalu al-fitr », tant que les gens se précipitent à rompre le jeûne. Qu'est-ce qu'on comprend par ce hadith? Ça, c'est la compréhension directe, le mentor du hadith. Qu'est-ce qu'on prend? On comprend indirectement, le mafhoum. On comprend que lorsque les gens abandonneront certaines sunnahs, telles, par exemple, se précipiter à rompre le jeûne, qui pour certains peut-être une épluchure. Parce que on a entendu qu'il y avait le noyau dans l'islam, il y avait l'épluchure et tout le bazar. Hein, subhanallah. Donc, ces choses-là, apparemment, pour ces gens-là, c'est des plissures. On s'attarde à parler de ça, c'est rien ça. Eh bien, Ad-Din, dans ce hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous prouve que Ad-Din est basé sur tout ça. Pas rien que ça, mais sur tout ça. La yazalu ad-din zahiran, ma ajjalu al-fitr. Le fait de se hâter, de se précipiter à rompre le jeûne, qui pour certains peut être un détail, eh bien là il est bien. Car ça prouve que les gens s'accrochent à la sunna, et aussi car ils se différencient de Ahl al-Kitab, à leur tour, ici Ahl al-Kitab, eh bien, tardent à rompre le jeûne, et parfois ils laissent, comme on a dit là tantôt, que le noir se répande. Tayyib, de préférence, je me rappelle ici, de préférence, essayer de rompre le jeûne avec des dates. avec les dates. Tu feras un père de préférence et à défaut un peu d'eau. Et dans le Musnad, dans le Musadarat, il est prouvé que le prophète والسلام, faisait sa prière après avoir rompu le jeûne. Après avoir rompu le jeûne, il faisait sa prière. Taïb. Peut-être une dernière, un dernier point, c'est général, il faut essayer d'être sincère dans cette adoration qui est le jeûne. Il faut vouer ce culte qui est le jeûne exclusivement à Allah Azza wa Jal, à lui seul. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit إِلَّا صِيَامْكَ إِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِبِهِ. C'est lui qui connaît le degré de la récompense, c'est lui qui s'occupe de la récompense. Et nous, on ne le sait pas. Car ici, il n'y a pas de place pour l'ostentation. Tu es entre quatre murs, tu es seul, tu peux manger. Il n'y a rien qui te retient si ce n'est la crainte d'Allah Azza wa Jal et la peur d'Allah Azza wa Jal. C'est une éducation. On écrase An-Nafs. On écrase les envies. On écrase Al-Shaytan. C'est pour ça qu'il dit لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Peut-être allez-vous craindre Allah Azza wa Jal. Peut-être serez-vous craintifs envers Allah Azza wa Jal. C'est une éducation. Pour ça, il faut l'ikhlas. Il faut être sincère dans son jeûne. Mais aussi, comme on dit à l'instant, Al-Mutaba'a, il faut l'ikhlas, mais il faut essayer de suivre le prophète والسلام, dans ses enseignements. Et il faut essayer de se concurrencer dans At-Ta'at. Dans At-Ta'at. Et d'accourir dans At-Ta'at, dans les adorations. Comme Allah Azza wa Jalla dit, سارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم. Accourez vers le pardon de votre Seigneur, etc. etc. Donc essayez de se précipiter, de concurrencer, d'essayer de multiplier les bonnes œuvres, car les hasanat sont multipliées. Alors les bonnes œuvres, que ce soit comme on a dit dans la lecture du Coran, que ce soit dans Sadaqa, que ce soit dans le dhikr, dans le rappel et l'invocation, que ce soit aller visiter un malade, que ce soit aider l'un ou l'autre frère qui est dans les besoins, que ce soit aller rendre visite à la famille, etc. etc. Multiplier les bonnes œuvres. Et essayer de s'éloigner le plus possible de le muharramat, de ce qui peut entacher votre jeûne, qui peut le salir, qui peut le souiller. Car souvent, il est souillé, il est taché. Et certains, il ne vous lâche pas, ne plus que d'une seule semelle. Il ne va pas vous lâcher. Vous jeûnez, il va essayer d'entacher votre jeûne, peut-être même de le réduire à néant et de faire en sorte qu'il soit nul. Alors, évitez le muharramat, surtout celles qui sont faciles à commettre. Et je pense au péché de la langue, très facile. Il suffit de bouger un peu la langue et ça y est, tu as tout détruit. Hein, tu jeûnes, tu as soif, tu as faim à la fin de la journée, tu sors quelque chose, ça y est, c'est parti. Et la langue comme Al-Kadib, le péché de la langue comme Al-Kadib. Al-Kadib, le mensonge, dire ce qui n'est pas vrai. Et le plus pire, le plus grave des mensonges, c'est le mensonge par rapport à Dieu subhanahu wa ta'ala et à son prophète. Dire des choses qui soi-disant font partie islamique et n'en sont pas. Interdire ce qui est halal et rendre licite halal ce qui est haram. Nous avons souvent affaire à des gens comme ça, qui donnent des fatwas à la carte. Ceci est permis, ceci n'est pas permis, ceci est halal, ceci est haram, etc. à la carte. Un danger auquel s'opposent ces gens-là est le suivant. Le prophète, c'est un hadith mutawatir. Point de doute concernant ce hadith dans lequel il dit, d'Abu Huraira, « Man kadaba alayya muta'amidan, ritabawa maq'adahu minan nar. » Celui qui ment, qui rapporte quelque chose qui n'est pas vrai, un mensonge, eh bien qu'il se prépare, à mon sujet, qu'il se prépare une demeure en enfer. Qu'il se prépare une demeure en enfer. Donc s'il vous plaît, les choses de dîme, n'y touchez qu'avec attention. Deuxième péché facile, Al-Ghaiba, la médisance. La médisance c'est quoi? C'est le fait d'évoquer ton frère et de dire de lui des choses qu'il déteste, qu'il n'aime pas. Que ce soit par rapport à son physique, que ce soit par rapport à son comportement, à certains de ses défauts, ou même toucher à son honneur. La médisance, c'est cela. Comme il dit alayhi salatu wassalam, zikruka akhaka bima yakra. Et comme Allah Azza wa Jalla dit, regardez un peu cette comparaison qui est horrible, horrible. C'est la suivante. Wala yaghdab ba'dukum ba'da. Il ne faut pas médire les uns sur les autres. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahna akhihi maytan ou bien maytan, les deux sont bons. Takarihtumuh. Il compare Allah Azza wa Jalla le fait de médire à quelqu'un qui mange la chair fraîche de son frère. Dégoûtant comme image, hein. De la chair, comme ça, avec du sang, tout frais, comme vous avez en train de la mordre et de manger, d'avaler. C'est bon? Horrible! Eh bien, il compare la médisance à cette image, à ceci, à ce fait. Et celui qui médit, c'est quelqu'un qui cherche à détruire, qui sème la destruction parmi les gens, à casser l'honneur ou à briser l'honneur de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est en général quelqu'un qui est lâche, qui est traître et qui est faible, car il n'a pas la force de parler à son interlocuteur en face. Alors il a recours à une arme. Donc on disait qui est lâche, eh bien c'est le deux poignards dans le dos. Il a fait, il a dit, il a fait cela, etc. etc. C'est un lâche et un traître. Taïb. Al-Namima, c'est la sœur de Al-Ghayba, la calomnie. Là, c'est quoi la calomnie? C'est le fait d'évoquer des choses sur les gens pour essayer de semer la discorde, essayer de briser les amitiés et les liens qu'il y a entre les gens. C'est pire. C'est vraiment pas mieux, mais c'est pire, la calomnie. Al-Namima. Celui-là, le premier est un lâche et un traître, celui-là est un shaitan. Celui-là est un shaitan à part entière. Car il voyage partout et son but, c'est quoi? C'est la destruction. Tout détruire. Les amitiés, les relations familiales, etc. etc. Que ce soit vrai ou pas vrai. Celui-là est un shaitan. C'est pour ça aussi que le prophète alayhi wa sallam a dit « La yadkhulu al-jannata qattat » ou bien « amman ». Celui-là, c'est catégorique, il ne rentrera pas au paradis. Donc, s'il vous plaît, donc c'est un conseil que je me donne à moi-même et à vous-même, surveillez ce bout de cire qui est très facile à bouger. Et voyez-vous, Al-Ghayba wa Al-Namima, surtout Al-Ghayba, c'est pas, il ne suffit pas, alors il ne faut pas attendre de parler, de dire tout un texte sur ton frère. Parfois, c'est très facile, parfois, c'est juste un geste. Tu es avec des gens, et quelqu'un qui passe, tu es. Pff, celui-là. Dis-moi un peu, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Non, laisse tomber la chouma de Raïba. C'est ça, Raïba. C'est ça. Ou bien, t'as envie de dire le Raïba, tu dis, Kélène, Masha'Allah, etc. Khairin, ça va, j'ai pas envie d'en parler. C'est ça, Raïba, c'est quoi? C'est ça. C'est là que ça commence, le Raïba. Comme si, Dana, tu étais pieux, craintif, t'as pas envie de parler. Tu fallait pas parler au début. Fallait faire. Carrément. Mais Shaitan, parfois, il joue avec ça. Surveillez cette langue, car elle est la cause de la rentrée en enfer de beaucoup d'individus, ou peut-être même de la majorité des individus. Et aussi, le regard. Il faut baisser son regard par rapport à al-muharramat, aux choses illicites qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna. Et je ne pense pas seulement à la rue. Je pense aussi à ce, comme certains l'ont qualifié, ils n'ont pas peur, à ce tarot, à ce chétan qui est dans la majorité des maisons, qu'on appelle la TV. Et s'il vous plaît, si vous êtes touché, parce que la majorité des gens sont touchés, Allahu Musta'an, essayez de limiter les dégâts. De grâce, éteignez-le. Mettez quelque chose dessus, un tissu, pendant le mois de Ramadan. Et ne pas attendre l'iftar pour se mettre devant la TV et commencer à changer de scène.
Car Allah a dit, « Ma taqarraba ilay abdi, bishayna habbu ilay, mima aftaratuhu alay. » Donc il dit, Allah a dit, « Mon serviteur ne se rapproche pas plus de moi. La chose qu'il a fait justement le plus se rapprocher de moi, c'est les choses que je lui ai imposées, les obligations. » Et ensuite, Donc, la yazalou yataqarrabu ilayhi bi an-nawafil, avec les choses surérogatoires, avec les actions surérogatoires. Encore ici, on voit qu'il y a ce malaise. Donc, on fait les surérogatoires d'un seul coup pendant un mois, puis on laisse tout tomber. Même les obligations. Allah Azza wa Jalla dit également وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Le musulman n'est pas lié, son adoration n'est pas liée à un temps, ou à un endroit, ou à un groupe. Par rapport à l'endroit, le prophète Hassan dit اتَّقِ لَا حَيْثُ مَا كُنْتُ. Crains là où que tu sois. Par rapport au temps, qu'est-ce que dit Allah Azza wa Jalla? Nous, on comprend le verset, Wallah, c'est comme si on comprenait, Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka shawal. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne shawal. Après, c'est tout. Range ta combinaison de prière. Voilà. La, Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. La certitude ici, la mort. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ. Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, le Seigneur des univers. قُلْ إِنَّ رَمَضَانِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Est-ce que c'est Ramadan qui est pour le reste, non? Non! Mahiyai wa mamati. Ma vie et ma mort sont pour Allah Azza wa Jal. Donc ce n'est pas ici une saison des vacances. Hein? C'est quelque chose. Ramadan, c'est un tremplin. Une école annuelle où on recharge les batteries et où on s'améliore pour rester sur cette lancée. Certains croient que c'est un diagnostic, c'est ça? Puis, ça redescend où c'était. C'est un mois pour un petit peu donner, turbo, et puis après ça, on s'arrête. Non! C'est grimper, et puis on reste. Et on grimpe encore un petit peu, et le ramadan d'après, ainsi de suite, des tremplins, des écoles. Première chose qu'on doit se poser, la première question qu'on doit se poser, et ça, malheureusement, c'est quelque chose qu'on a tout à fait négligé aussi. As-salaf al-salih, rahimahumullah, la première chose qu'il faisait, après le ramadan, c'est se demander, il craignait, il se demandait, il regardait leur jeûne, et il se demandait s'il allait être accepté par Allah. Nous, avec toutes nos adorations, que ce soit la prière, le jeûne, à partir du moment où on s'en est défait, où on l'a accompli, ça y est, on croit que c'est bon. J'ai fait ma prière, ça. J'ai fait mon jeûne, voilà, j'ai fait, qu'est-ce que tu veux, j'ai fait le jeûne. Non, les salafs, ils ne s'arrêtaient pas là. On rapporte d'eux que pendant 6 mois, ils invoquaient Allah pour qu'il accepte leur jeûne et ils craignaient qu'il ne soit pas accepté. Mais nous, à partir du moment où on s'est détaché de l'action, on a accompli ce qu'on veut faire, ça y est, c'est bon. J'ai fait l'action, on dirait que c'est accepté et que tout passe comme une lettre à la poste. Et ce n'est pas le cas. Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Donc Allah dit, ceux qui donnent ce qu'ils ont donné, et leurs cœurs sont craintifs, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte, à la pensée qu'ils doivent retourner chez leur Seigneur, retourner à leur Seigneur. Ici, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, et méditez tous sur ce hadith, dans un hadith authentique rapporté par Tirmidhi, rahimahullah, Aïcha, radiyallahu anha, a posé la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, voilà, ya Rasulallah, ce verset, donc, الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً, ceux qui ont donné ce qu'ils ont donné, et leur cœur, ou ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait, hein, qui ont, et leurs cœurs sont craintifs. Elle leur a demandé, est-ce que ce verset concerne, regardez, الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرُ وَيَسْرِقُونَ, est-ce que ce verset concerne, est-il lié à ceux qui boivent l'alcool et qui volent, donc ils sont craintifs au fait de retourner chez leur Seigneur? Et regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit, لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ Il a dit non, ô fille du véridique d'Abu Bakr radiallahu anhu. Il a dit certainement pas.
Il a dit ce hada, il a dit, walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun.
Il a dit ce verset concerne ceux qui prient, ceux pardon qui jeûnent, et ceux qui prient, et ceux qui donnent l'aumône.
Et ensuite, il a dit wa hum yakhafuna an la tuqbala minhum.
Il a dit ensuite, le prophète a de conclure, et ils craignent que cela ne soit pas accepté. Ils craignent que leurs actions ne soient pas acceptées par Allah Azzawajal.
Et ensuite, il a récité le verset, Ulaika yusari'una fil khayrat, wa hum laha sabiqun. Ensuite, cela, ils se dépêchent à appliquer, à mettre en action, à pratiquer les bonnes œuvres, et
ils se précèdent. Donc ils sont rapides, ils se précèdent dans l'accomplissement des bonnes œuvres.
Donc vous voyez ici de ce verset, non seulement ils craignaient, mais ensuite c'est pas tout. Comme beaucoup d'entre nous, on a fait l'action, non. Non seulement ils craignent, Ulaika yusari'una fil khayrat.
En plus de ça, ça s'arrête pas là. En plus, ils craignent et ils font des actions le plus vite possible. Encore plus.
Donc, ça c'est un autre point. Pour que l'action soit acceptée, comme a cité le frère Ahmed, il a dit bien sûr l'ikhlas, que vous connaissez l'ikhlas, le fait que cette action soit faite sincèrement pour Allah Azzawajal. Ou al-mutaba'a, bien sûr que cela soit fait selon, en conformité avec le char, en conformité avec la législation. Ici, il y a des petits points qui sont, comment dire, parfois ignorés, hein, qui sont subtils. Un point, par exemple, c'est que beaucoup d'entre nous, parfois sans s'en rendre compte, beaucoup de musulmans, ils font le jeûne un petit peu comme si c'est une action culturelle. Je suis turc, je suis marocain, on se réunit le soir en famille, on mange chebakia, harira, on va à la mosquée, c'est gay, on est tous ensemble, tous réunis. Une sorte de culture. Les nuits de Ramadan, les veillées de Ramadan, les souvenirs de Ramadan, et j'en passe. Donc c'est devenu un petit peu comme une culture. Mais qu'est-ce qu'il dit le prophète Aïssan? « Men sam Ramadan imanan wa ihtisaban » Imanan, donc il a la foi en ça, son caractère obligatoire. Il sait pourquoi il est « wa ihtisaban » Et tout au long de la journée, il supporte ça pour Allah, il recherche l'agrément, il recherche la satisfaction, la récompense auprès d'Allah. Pas c'est juste une culture. Je fais ça, ouais, c'est gay, on est en famille, allez, mais là je le fais aussi. Hein, ça c'est des choses subtiles, mais que parfois on a tendance à oublier. Un autre point, je m'excuse s'ils ne sont pas tous classés comme ils devraient l'être, c'est que dès maintenant, bien sûr là je reviens un peu avant le Ramadan, normalement mon sujet c'est après, voilà qui m'allèche, ce sont des points qui sont parfois importants, c'est que dès maintenant on doit se préparer aux jeunes. Dès maintenant, on doit mettre un programme sur pied. Le but, comme il a dit Frère Ahmed, à long terme, à court terme. Pas seulement par rapport à la mémorisation du Coran, par rapport à l'adoration. Par exemple, en général, je ne prie pas à la mosquée. Pendant le Ramadan, je vais y aller pour continuer. En général, je ne fais pas beaucoup de nawafil. Les deux avant Salat Dhuhr, deux après Salat Qadr, je ne les fais pas. Je dois essayer de les faire. Et essayer de continuer après le mois de Ramadan. Par exemple, je ne lis pas beaucoup le Coran. Pendant le mois de Ramadan, un quart d'heure, 20 minutes tous les jours, à telle heure, je vais essayer de le faire. Je n'aide pas beaucoup les frères. Je n'ai pas beaucoup de sentiments vis-à-vis des frères, de ce qui se passe. Donc, je dois essayer de travailler ça. Et beaucoup de choses, les actions du cœur, les actions. Essayer pendant le Ramadan, dès maintenant, de se mettre un programme, de se fixer des objectifs qu'on va réaliser pendant le Ramadan. Pas, Ramadan est là. Oh, c'est déjà le Ramadan. Allez, oh, je vais à la mosquée. Et puis, pendant le Ramadan sort, et on est comme, on a un statu quo. On ne s'est pas amélioré. Celui-là, en fait, on est perdant, on sort perdant. Donc, dès maintenant, se préparer à cela. Bien sûr, les savants ont cité, comme le Hajj et comme le jeûne, ils ont cité des signes, des signes qui font que on peut percevoir plus ou moins que le jeûne a été accepté et qu'il nous a été profitable. C'est par exemple qu'on sort du jeûne meilleur, bien sûr, et qu'on continue dans ses actions, et qu'on en sorte amélioré. Et non pas donc avec un statu quo. Et pendant le Ramadan, ça j'ai parlé avant le Ramadan de se mettre un programme, pendant le Ramadan même, tous les jours, muhasabatun nafs, se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Tiens, quand même aujourd'hui, j'ai quand même encore parlé sur le dos de quelqu'un. J'étais avec Foulaine à telle heure, j'ai quand même parlé sur le dos de quelqu'un. Tiens, aujourd'hui, quand même, j'ai quand même eu de la jalousie. J'ai vu un frère, par exemple, qui progresse, hein, qui a réussi à faire quelque chose, qui a réussi un projet, et j'éprouve pas encore de la jalousie. Aoudou billah, il faut que j'arrange ça, demain ça va être fini, je dois laver mon cœur, etc. Tous les jours, avant de se coucher aussi, juste avant le Qur'an, comme la Ramère dit la dernière chose sur le Qur'an, on va pas le contredire. Donc, muhasabatun nafs, voir aujourd'hui où j'ai glissé pour l'améliorer le lendemain. Ensuite, et on va terminer avec ça, une comparaison dans certaines actions, voir notre situation pendant le Ramadan et ensuite. Et on va voir que malheureusement c'est triste. Et pour bien faire, beaucoup d'entre nous, bien qu'on ne souhaite pas la mort, beaucoup d'entre nous souhaiteraient presque mourir sur cette situation, de voir tel qu'on est pendant le mois de Ramadan, parce qu'après souvent c'est la régression totale. Au niveau parfois individuel, au niveau surtout de la communauté, comme on l'aperçoit. Au niveau, par exemple, de Hudur Durus, wa iqamatuha, Ashabul Masajid, jazahumullah khairan, wa wafaqahumullah, on remarque que quelques jours avant Ramadan, les téléphones s'animent. Le merkez, le ceci, ouais, qu'il y a un cheikh, ou maquet, il faut un cheikh, ouais, c'est pas grave, viens, faut donner un dars, hein. Pendant toute l'année, l'ignorance totale. Juste la khutba, on essaie de temps en temps, c'est à moi un petit cher à gauche, à droite, pour un petit peu remplir, mais sinon, on ne cherche pas tellement. Pendant le Ramadan, là, on dirait, mashallah, il faut l'ilm, le fakir, là, il faut des mashir tous les jours. Dhor, l'asr, le maghreb, et après l'aïcha, même pendant la nuit. Ça, encore une fois, remarque, c'est un, yani un khalal. Pourquoi pendant le Ramadan, c'est un mois où on doit absolument faire, et après il n'y a plus rien. Est-ce que le durus c'est seulement pendant le Ramadan? Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Que ce soit pendant le Ramadan ou après le Ramadan. Donc ça c'est une première chose. Et aussi les gens qui assistent. Pendant le Ramadan, on voit que les durus sont bien remplis. Et après, parfois on voit un rang ou un peu plus. Faith, salatul jama'a, j'en ai touché un mot. Ça, je crois que vous-même, vous le voyez. Yani, il suffit de voir comme on a dit, salat al-dhur, juste après salat al-aïd, vous remarquez que, yani, on n'a plus besoin de chauffer autant la mosquée. Ou parfois on a besoin de la chauffer plus en hiver, parce qu'il n'y a plus personne. Troisièmement, as-siyam. As-siyam, comme on l'a dit aussi, il y en a qui connaissent plus le jeûne jusque le ramadan suivant. Qiyam al-layl, même chose. Surtout laylatul qadr. Il y en a même, ils ne font pas tarawih pendant le ramadan, salatul qiyam, c'est juste laylatul qadr. Et après, c'est fini. Tilawatul Qur'an, n'en parlons pas. Ad-du'a, il y a un imam, nous on néglige beaucoup de du'a. Hein? Et pendant le Ramadan, malgré, peut-être un petit peu plus, mais quand même, en général, ad-du'a. Et le prophète Hassan dit, « Man lam yas'alillah, yaghdab 'alayh. » Celui qui ne demande pas Allah Azza wa Jal, Allah est en colère contre lui. Et même ça aussi, on doit faire attention. Ad-du'a. C'est vrai, compter sur l'asbab, faire l'asbab. Voilà que si vous remarquez bien, nous-mêmes, en général, on fait l'asbab et on compte beaucoup sur l'asbab. Sans faire du'a, sans faire ya Rabbi yassir, Allahumma la sahla illa majalta ou sahla, etc. Sans faire ça, on oublie. On directement, ah, la voiture, un garagiste, le réparer, il faut un homme de métier. Allez, bon, on commence à prendre les téléphones, tout le monde. Mais on ne pense pas à dire ya Rabbi, facilite-moi, wafiqni, facilite cette tâche, facilite que ça soit facile, que ce soit, etc. Ça, souvent, on n'y pense plus. Un petit mot aussi, bon, pour ceux, la prière carrément, il y en a, auzu billah, qui l'abandonnent carrément. On a parlé de salatul jama'a, la prière, et on a carrément, ils prient pendant le Ramadan, après ils l'abandonnent. Et ça, vous savez que certains alémas disent carrément que c'est du kufr, wali auzu billah. La personne a été mu'mine pendant le Ramadan, et il sortirait sans prière. Il ne prie plus par la suite. Tatrine, le frère en a touché un mot, c'est une occasion pour les frères qui ont été touchés par ce fléau, la cigarette. Et subhanallah, un cheikh a dit une phrase, subhanallah, qui est super. Il a dit, comment, avec ton index, qui te sert à attester de l'unicité d'Allah durant la prière, juste après le maghreb, tu t'en sers, tu l'utilises pour porter une cigarette. Ce même doigt. Tu attestes l'unicité d'Allah avec, pendant la prière, et ensuite juste tu t'en sers pour allumer la cigarette et pour la fumer. Et un dernier petit point qui concerne là vraiment les jeunes, c'est le comportement. Je me souviens, il y a quelques années, ils avaient fait un reportage. C'est à l'époque où on regardait encore un peu la télévision. Et c'était une chose intéressante. Et Annie, ils avaient fait un reportage sur le bruit à Bruxelles. Et la délinquance, je ne sais plus exactement quoi. Et ils avaient interviewé un riverain, un Belge, non musulman. Et ils lui ont dit, voilà monsieur, comment c'est l'activité dans le quartier? Il dit, c'est chaud. Il y a du bruit. Hein. Et il y a aussi de la délinquance. Mais il dit, sauf pendant le ramadan. Hein. Je vous avais dit la cité, il a dit, sauf pendant le ramadan. Là, c'est bien. Là. Ce train-là. C'est une moubkiette, une moubkiette, une moubkiette. Annie, on a envie de rigoler, mais aussi, ça fait pleurer. Pourquoi, subhanallah, on est devenu une fitna pour les kafirines? Souvent, on les éloigne de l'islam, au lieu de les rapprocher. Si on montrait cet exemple, durant tout au long de l'année, comme on le montre durant le ramadan, subhanallah, même les riverains, c'est-à-dire, ils remarquent, pendant le ramadan, quand même, qu'il y a une amélioration. Peut-être sauf à certaines heures, lors du maghreb, etc. Ou même parfois, c'est vrai, certains jeunes, continue après la nuit, essaie de lancer les pétards, etc. Voilà qu'en général, dans les classes, dans le comportement, dans la rue, on remarque quand même un certain calme, un calme relatif, un certain quand même amélioration du comportement chez certains, chez beaucoup, mais on va dire de musulmans. Et ce train-là, est-ce que ça c'est limité par le comportement, cette discipline, ce comportement? Est-ce que c'est limité au mois de ramadan? Non. Et ensuite, l'indibat. On a tendance dans nos vies à avoir beaucoup d'anarchie. On se lève à n'importe quelle heure, on mange à n'importe quelle heure, on va se coucher à n'importe quelle heure, on n'a pas de programme, on n'a pas... Profitez du ramadan pour vous mettre un programme. Comme il a dit le frère, wallah, une chose qui nous aide beaucoup, si on la faisait, mais malheureusement ce n'est pas souvent le cas, c'est d'essayer de ne plus dormir après cela. Et de se mettre un programme. Et vous verrez que la journée, subhanallah, elle est remplie. Mais on arrive à faire énormément de choses. Et donc, profiter de ce mois pour avoir une certaine, acquérir une certaine discipline. Discipline et de faire nos choses, que ce soit dans Talablaïd, que ce soit dans le fait de faire mes affaires, les courses, les choses administratives, etc., d'avoir une certaine, d'acquérir une discipline. Et c'est ça, souvent, ça nous manque. On n'a pas de discipline. On a cette anarchie totale, comme vous avez dit dans les priorités, dans le fait de, on n'a pas d'heure. On ne tient pas nos rendez-vous, on commence une chose, on arrête. Non plus, on s'assoit dans tout, on commence une chose, on l'arrête. Donc tout ça, c'est vu notre manque de discipline, vu notre manque justement de persévérance et de discipline. Et, Wallah alam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alameen.